Radio Campus.
Vous n'écoutez pas de musique chez vous?
Ah non, plus du tout, non. On a des concerts de silence, nous.
Dites à cette bêtasse de fermer sa gueule. Dis-le lui toi-même, connard. Non, est-ce que je te dis, mais pas de prendre con.
Radio Campus.
Le style est efficace, direct.
88.3.
La merde.
Fais un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, On se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Bonsoir à toutes et à tous, aux auditeurices. Nous sommes bien sur Radio Campus 88.3 FM dans Alors, on se fait un film, et c'est l'équipe B ultra réduite.
Tout seul.
Là, ultra réduit. Salut Vincent.
Salut Julien. Pour l'instant, on va se renforcer
un tout petit peu. Normalement, il y a Arnaud qui va nous rejoindre. Cory est en plein déménagement vers l'Allemagne, ça va être compliqué de l'avoir avec nous. Voilà. Tout comme hier soir, il n'a pas pu participer à French Kiss pour les mêmes raisons. Enfin, voilà, c'est normal. Hein, après,
c'est lui, hein, c'est changement de vie.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure off. Ça commence à ressembler à la fin de l'année. Donc, je pense qu'on se rapproche terriblement. D'ailleurs, je crois que la semaine prochaine, nos amis de l'équipe.
Ils font leur top.
Qu'on salue, font leur top 5. Donc, je pense que nous, le 14 juin, on va faire notre top 5. Ouais, aussi.
J'aurais bien aimé qu'on puisse aller jusqu'au Indiana Jones. Mais il sort le 28 juin, ça fera loin. Hein. Je sais pas si on leur clôt les portes avant.
Non.
Parce qu'on pourrait faire une émission spéciale Indy.
Je pense qu'en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer d'aller le voir en AP.
Il faudrait voir l'avant-première.
Comme ça, on pourrait faire une émission le 28 juin sur les 1, 2, 3, 4, 5.
Quoi qu'il se passe, ouais, ça serait bien. S'il sort la veille, si effectivement il y a une avant-première la veille, on peut essayer de le voir.
Allez, on s'organise ça.
Ouais, ça serait bien parce que ça, c'est un personnage coup de cœur, perso.
Ouais.
Et même là, pourtant, j'avais été échaudé par le 4, mais je pense que là, celui-là, James Mangold, c'est un bon réal. Même s'il peut y avoir des trucs énervants dedans, je pense que le coup de cœur va peut-être l'emporter quand même pour le cinquième épisode.
On espère.
C'est le dernier.
On peut se faire une émission. 60 minutes, 12 minutes par Indiana Jones.
Oui, on fera moins sur le 4i. Non, il faut en faire autant parce que finalement, il y a des choses à dire aussi, même quand c'est pas forcément parfait. Ouais, je suis d'accord.
Après, moi, j'aurais voulu qu'on pousse jusqu'à Barbie, mais Barbie, c'est le 9 juillet, je crois. Donc
ça sera pour la rentrée.
Alors que ça a l'air vraiment croustillant.
Cet été, il y a du gros. Il y a du lourd cet été quand même. Il y aura Oppenheimer, moi, je sais que j'attends pas mal du Nolan. Il y aura Barbie, effectivement, de Greta Gerwig. Ça a l'air très, très chouette aussi.
Il y aura le nouveau Jason Statham avec les mégalodons.
Encore, ils ont fait une suite des Sharknado, les mégalodons.
Voilà, non, mais on aura. Enfin, après, il y a des choses. Je trouve que c'est marrant, mais c'est un été où il y a plus de choses attendues que d'habitude.
Mais souvent, c'est très pauvre l'été, ou quelques films d'horreur. Il y a un film d'horreur un peu, ou parfois un Ari Aster, comme moi j'avais Midsommar, était sorti un peu au creux de l'été, il me semble.
Ouais, Midsommar, il est quand même assez ouf.
C'était ouf quand même. Et donc voilà, faut pas désespérer des étés. Parfois, il y a quand même de bonnes choses qui sortent. Mais là, pour cette émission proprement parlée, ça va être un peu galère parce que c'était deux semaines un peu maigres.
Oui, tellement maigre que moi, j'ai rien.
Ouais, alors il y a de la série.
Si j'ai fini Donjons et Dragons.
Ouais, voilà. Ok. Moi, je pourrais parler un peu de série. Il y a quand même des choses que je me suis risqué à voir. Il y a la deuxième saison de Yellow Jackets. Je vais un peu parler de cette saison.
On m'a beaucoup teasé. Je trouve que ça me donne envie d'y aller.
C'est l'univers de Karim Kusama. J'en avais dit plutôt du bien sur la première.
C'est Karim Kusama
qui est co-écrit en fait et qui co-réalise certains épisodes. C'est
Karim
vachement.
Karim Kusama qu'on avait beaucoup apprécié sur son Destroyer avec Nicole Kidman.
Ah ouais. Et en fait, c'est une série qui est qui a un capital sympathie. J'en avais parlé hein, à l'époque de la saison 1 avec ce groupe de comment dire, de joueuses de foot américaines qui est dans un crash d'avion et puis elles se retrouvent isolées. Et là, la loi de la jungle en fait, reprend un petit peu place entre elles. Et puis 30 ans plus tard, parce que ça se passe en 96, en 1996, et là, on est de nos jours. En fait, on a des flashbacks qui sont alternants en permanence. Et il y a surtout un beau casting à deux âges, en fait. Ça, c'est chouette. Ils ont pris, il y a quand même Christina Ricci et Mélanie Linsky qui jouent les actrices à notre époque, en fait, quand elles ont la quarantaine. Et puis les gamines qui sont les actrices plus jeunes en 96, c'est super bien choisi aussi. Et donc la deuxième saison, j'ai pas regardé le premier épisode, donc je peux pas trop en parler, mais j'ai essayé de finir bien proprement la saison 1 pour bien raccrocher avec la deuxième. Mais j'en parlerai un peu plus peut-être dans 15 jours.
Yes. Voilà. Peut-être que dans 15 jours, on fera une émission un peu consacrée aussi aux séries. Enfin, voilà,
sans doute, oui, on se fera plaisir, on essaiera de. Parce que là, effectivement, pour ce jour-là, en film, en tout cas pour aujourd'hui, on n'a pas énormément de choses. Nous, on a vu Les Gardiens de la Galaxie 3, dont vous aviez déjà bien parlé avec plaisir, avec teasing à mort la semaine, enfin, il y a 15 jours. Donc, on ne pouvait ne pas y aller.
Et avec Arnaud,
ne pouviez pas y aller. Voilà, exactement. Et avec Arnaud, bah, il va en parler aussi quand il arrivera. Mais
vous avez été un peu déçu.
Non. On a retrouvé exactement ce que Corrie et toi, ce que vous disiez. On y a tout trouvé. Il n'y a rien. Vous n'avez pas menti. Vous n'avez pas du tout dit de bêtises. On a trouvé exactement ce que tu disais. Si je peux déjà un peu démarrer là-dessus, l'alternance, effectivement, d'ascenseur émotionnel en permanence. Et c'est risqué. Et c'est rare à faire de pouvoir alterner en 2 minutes, même pas en 30 secondes des fois, un truc ultra dark, ultra down, où tu peux effectivement verser ta larme sans problème, et les animaux aidants, il faut avouer que c'est un capital kawaïen comme il faut. Et juste après, avoir la punchline très drôle, parce qu'ils savent très bien écrire entre eux les personnages de cette équipée.
Et même passer à la colère en une seconde.
Ouais, la rage, le bouillir effectivement de colère, et l'instant d'après, se poiler, mais grave, avec des des phrases très drôles et des séquences entre les personnages qui sont succulentes. Mais ça, voilà, Arnaud va en parler aussi bien que moi dans quelques temps.
On se le garde un peu pour après. Quand tu m'as envoyé par texto, j'ai cru que vous étiez autant déçu que moi, j'allais être déçu avec... Empire of Light, Babylone.
Ah punaise, non, on a passé 2h30 sans cligner pratiquement des yeux. Vraiment, ça a été un moment agréable, très agréable. Et surtout, pour moi, c'est le meilleur des trois, parce que j'étais pas gros fan ni du 1 ni du 2 à cause du côté un peu le scénario, un peu dont je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit, si ce n'est les personnages et leurs blagues entre eux, que je trouvais très réussi dès le premier épisode. L'univers était bien écrit pour ça, mais moi, je peux pas raconter l'histoire du 1, ni même vraiment du 2. J'ai du mal à me souvenir de quelle planète on va, etc. Là, je pourrais me rappeler de cette histoire. Je pourrais la raconter.
C'est ce qu'on disait. C'est quand même un scénario qui est assez différent de ce qu'on a pu avoir sur d'autres.
C'est ça, je trouve le point fort.
Un méchant original, quoi.
Original et teigneux, c'est teigneux quand même. Il envoie du lourd, je trouve. Il est vraiment méchant.
Et il est méchant, mais par contre, il est pas méchant à vouloir conquérir l'univers. Non, c'est une autre dimension. Il a sa planète laboratoire. Il a une autre manière.
C'est
une
autre façon d'être, on va dire, d'être terrifiant. Hein. Il fait peur quand même.
Et il est hargneux. Il a Rocket en haine, quoi.
Il a une part effectivement comme souvent, de fêlure, de fragilité en permanence, qui fait que ça le rend presque parfois très perturbant. Hein. C'est-à-dire qu'il c'est pas le bourrin de base. Hein. Il est à la fois, il peut faire des éclats d'agressivité fulgurante, et puis en même temps, il est presque dans la tristesse, on va dire, infinie, un peu de son personnage. Donc c'est bien écrit là aussi. Hein,
c'est presque pour moi le meilleur film Marvel depuis.
Depuis les Endgame ou Infinity War, enfin je pense.
Le
combo.
Je pense qu'on est sur la plus belle écriture scénaristique.
Il y a la même filiation en tout cas, et je trouve qu'il y a la même dramaturgie. Hein, c'est-à-dire,
Il y avait une autre dramaturgie dans Endgame. Endgame, on avait trois blocs. On avait carrément un bloc bergmanien sur le départ, hyper sombre. Voilà,
je vais prendre 30 secondes pour aller ouvrir à l'ami Arnaud qui doit juste en bas.
Ah oui,
il va
tout
nous
à fait.
À tout de suite.
Je mets une pause. Donc on va surtout parler des Gardiens de la Galaxie. Et puis vous avez d'autres choses après. On finit le sommaire.
Ouais, alors,
et comme ça, tu vas pouvoir ouvrir à Arnaud et je mets une musique.
On pourrait parler de Cannes. On peut en parler un peu parce que c'est l'actualité quand même récente, le Festival de Cannes. Et le seul film qui était hors programmation, mais qui était au début, c'était le film de Ma Yuen. On l'a vu hier. On peut en parler quand même pour accrocher à Cannes si on veut. C'est le seul film qu'on ait. J'ai bien jeté sur ta réponse. J'ouvre à Arnaud.
Hein, ça marche. Et pendant ce temps-là, on écoute Spirit Skinned avec le titre Grande.
À tout de suite.
À tout de suite. Hop, de retour sur Radio Campus en 88.3 FM. Et comme vous pouvez le voir à l'image, finalement, on est au complet.
C'est bien, je me sens mieux maintenant.
Oui. Arnaud nous a rejoint, bonjour Arnaud.
Bonjour.
Et Cory nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Alors on est très content de voir Cory, c'est peut-être la dernière fois qu'on te voit.
Ouais.
Oui.
Parce qu'après ça sera loin, c'est
oui,
ça.
Oui, ça sera très très loin, ce sera depuis l'Allemagne. Oh, je voilà. Parlerai peut-être sur le chat quand même.
Yes, avec plaisir.
Mais je vous souhaite bonne chance pour trouver de nouvelles recrues. Pour,
On fait un appel, hein, voilà, s'il y a des
ils
gens
trop,
qui...
En face, ils sont trop nombreux, il faut qu'ils détachent un membre de...
Ouais,
de
mais je t'avoue que...
oui.
Bon. Je préfère leur laisser leurs nouvelles recrues qu'ils ont, qui ramènent un vent de fraîcheur et peut-être une fin de male gaze absolue dans leur
oui,
émission.
C'est pas faux. Oui, mais bon, on va l'avoir le male gaze maintenant, non ?
Non, ça va. Moi, je pense que je suis relativement ouais. déconstruit et que je suis pas trop male gaze, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, on avait Cory qui avait aussi ce vent de fraîcheur là. C'est et puis vous êtes quand même moins obtus, je pense, que les que certains de nos camarades de l'autre émission. Mais bon, on n'est pas là pour casser du dos
absolument.
Sur les copains
juste
et les copines.
Contrebalance de termes individuels avec des barrettes, c'est pour voilà. Mais non, il faut qu'on recrute. Je suis d'accord.
Donc Cory, lui a vu fraîchement le nouveau Spider-Man.
Ouais.
Ah là là, bah oui, c'est bien.
Donc voilà, tu vas pouvoir nous teaser à mort, ouais. Et comme ça nous évitera de parler de Maïwenn.
Oh.
Franchement, moi je boycotte surtout Johnny Depp,
je boycotte
la personne, mais après on peut parler.
Je me doutais bien, mais oui, mais on peut parler du film, on verra.
On va surtout parler de ce qu'il y a autour et de ce qu'elle fait, et en fait des films qu'elle fait pas.
Et puis c'est pas forcément, voilà, on dira pas forcément que du bien, et je pense qu'il y a à boire et à manger.
Il y a que du mal à dire en fait de Maïwenn, surtout quand on a appris que Police avait été monté par ses équipes et par les réalisateurs et non pas par elle. Déjà que c'est un mauvais film, Police.
Non, c'est pas un si mauvais film que
ça. Et a priori, il était encore plus mauvais. Mais si.
Bah, encore, ça allait parce que quand même, ça dénonçait pas mal de sujets.
Mais tout amène le film pour faire la danse entre Maïwenn et Joey Starr. Et en fait, au départ, elle avait monté un film qui était que sur son histoire d'amour entre lui, elle et Joey Starr.
Je dis pas qu'elle est un peu narcissique quand même. Ça, c'est.
Elle est pas un peu narcissique.
Bah, là, elle est. Enfin, on va en reparler tout à l'heure si on en parle tout à l'heure.
Elle prend Johnny Depp parce qu'elle rêvait de l'embrasser. Mais enfin, merci les chicots, quoi. En même temps, après, les chicots en nord de Joey Starr, on pouvait prendre les chicots pourris de l'alcoolique violent américain, quoi. Bon voilà.
D'accord.
Non, mais on en parlera, on conclura rapidement.
On peut en parler si on est sec. On peut parler, voilà.
Je propose qu'on commence par le Spider-Man. Non, peut-être continuer sur les Gardiens de la Galaxie.
Bah là, je commençais à démarrer, on l'a vu. Du coup, voilà, comme vous l'aviez vu, nous aviez bien vendu le film il y a deux semaines, et nous, on l'a vu avec Arnaud, on est très contents. C'est ce que je disais à Julien. On a vraiment tout retrouver ce que vous disiez tous les deux du film, c'est-à-dire à la fois c'est d'abord oui un très bon scénario, vraiment original, vraiment avec un angle rarement vu, c'est ça qui nous a vraiment plu.
Le Mengele de l'espace, le méchant, quoi.
Ouais, effectivement, avec des audaces de récits qui sont abruptes, franchement, les séquences de torture animale. Oui, effectivement, la L214 peut se sentir en force, c'est clair. En tout cas, c'était bien amené. C'est impitoyable, ces séquences-là, c'est clair.
Ah, c'est impitoyable.
C'est pas gore, mais
c'est impitoyable émotionnellement.
C'est émouvant, c'est triste, ça fait mal au bide. Il n'y a pas d'autre.
Je trouve que c'est plus impitoyable même que la partie de chasse à la baleine dans Avatar 2.
Oh oui, bien plus. Okay, ouais,
rajoute un côté gore et qui peut.
En plus, on va pas s'en spoiler forcément, mais ça démarre d'autant plus bien dans le pénis, dans le douloureux, qu'au début, il crée des liens forts. Enfin, c'est intéressant. Dans les prisons des animaux, si vous voulez. Mais bon, pour faire plus large, en fait, ce qui nous a beaucoup plus, je pense, c'est surtout le fait que ça, et comme tu le disais, Julien, ça alterne avec une audace pas possible du triste, du lourd, du fort, du super émouvant, avec de la drôlerie, enfin, des blagues extraordinaires. Que ça, on savait qu'il savait faire. On retrouve des personnages savoureux. Enfin, on adore Mantis. On est gros fans de Mantis.
Oui, génial, Mantis. Et Drax aussi.
Et bien évidemment. Le duo fonctionne à mort. Et même par les silences, même par rien. Le montrage du doigt, à un moment, c'est à pleurer de rire. Enfin, et tout est comme ça, sans arrêt. Et pendant 2h30, on s'ennuie franchement pas. Ce qui est une vraie. Ça aussi, c'est une vraie richesse.
En plus, c'est presque un film à sketch, quoi.
Ah, c'est le principe un peu quand même du Gardien de la Galaxie. C'est parce que je me rappelle pas beaucoup de.
Et ça fonctionne bien.
Et ça marche bien. C'est des scénettes, des petites séquencettes comme ça, qui s'embriquent les unes après les autres. Malgré tout, il y a quand même une histoire qui se continue. Donc voilà, je sais plus ce que vous en disiez aussi, mais enfin vraiment.
Arnaud, toi, ton avis ?
Moi, j'aurais eu tort, effectivement, de faire la passe.
Tort n'y est pas.
Non, effectivement. Mais oui, j'ai beaucoup apprécié. Alors, par rapport au précédent, il faudrait peut-être que je revoie, parce que le premier encore, je me souviens à peu près de ce qu'il y avait dedans. Le deuxième, je l'ai quasiment oublié. Bon, après, il y a l'interlude de Noël.
Endgame, Infinity War aussi. Puis en fait, il faut quand même rappeler que Gamora et Nebula sont les filles adoptives de Thanos, donc les gardiens de la galaxie.
Ça, je me souvenais plus de tout ça.
Ont un très gros rôle dans Endgame et dans Infinity War.
Oui, c'était surprenant. Enfin, moi, je connaissais pas trop les BD et leur interconnexion, s'il y en avait d'ailleurs avec ces personnages-là.
Si, si.
Il y en avait donc. Et en voyant le ton du premier film, de voir qui était quand même plutôt quelque chose d'à part hein, dans son univers, dans son côté, dans son traitement, de les voir prendre une telle importance dans les Endgame et compagnie, j'étais plutôt surpris. Quoi.
Et heureusement qu'ils sont là dans le Infinity War et le Endgame, ils rajoutent parfois une petite touche qui...
Rare, d'humour.
De lumière dans ces deux opus qui sont quand même d'une noirceur incroyable.
Mais alors là, celui-là, c'est j'ai énormément ri, malgré les scènes dont on vient de parler. Il y a une question que je me suis posée, mais il y a l'espèce de planète là, faite de chair, enfin, etc. Mais...
Où sont-ils allés chercher tout ça ?
Non, mais je me suis dit, mais ils lui ont laissé faire ça, il a eu le droit.
James Gunn.
Et là, je me suis demandé, son projet à lui, c'est de faire péter de l'intérieur le système.
Ben là, en vrai, alors James Gunn, je pense qu'il est là pour faire péter le système, parce que vous savez ce qu'il vient de faire quand même. Il a quitté le Marvel Cinematic Universe pour aller chez DC.
Mais qu'il a déjà fait pour eux le deuxième
Suicide Squad,
qui est aussi un grand morceau de bravoure en termes de conneries et
de gore.
Et de gore aussi,
Ah oui, de gore. Enfin, la scène sur la plage, là, du Suicide Squad. Oui, mais c'est un gore.
Enfin, c'est tous les trucs que tu voyais pas, a priori, chez Marvel comme chez DC, dans leur univers et leur façon de le gérer, de traiter leur rapport avec les spectateurs ou les clients.
Là, on pousse jamais trop dans le rouge, quoi.
Et ça m'a rappelé évidemment son premier long, enfin celui qui l'a fait découvrir, pas Horribilis,
avant.
Mais
avant et elle est super.
Super.
Ah oui.
Avec Ellen Page et
Elliot Page.
Elliot Page.
Oui, mais à l'époque
Elliot
c'était
Page. Encore
Ellen. À l'époque, Page. Ellen, elle s'appelait Ellen.
Oui, mais on doit dire Elliot maintenant.
Bien sûr. Donc ça m'a rappelé ça, qui était déjà par rapport à tous les trucs de super-héros. Quelque chose d'assez irrévérencieux. Et je vois qu'il n'a pas perdu sa patte et sa hargne. Et donc, je suis ressorti en me disant, et ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, j'irai peut-être le revoir.
Ah ouais.
Donc, voilà.
Il y a quand même, Pierre Blanche a marqué quand même. Vous êtes prêt à aller revoir, monsieur?
Ouais, je crois.
Un film de super-héros de la galaxie Marvel, alors que c'est pourtant pas votre univers au départ. Quoi.
Bah voilà.
Ouais, non, bravo. Bravo James Gunn sur cette réalisation. En plus, on peut aussi souligner que esthétiquement, c'est très joli, quoi.
Oui, c'est inventif aussi. Hein.
Ouais, les races qui sont créées, les espèces qui sont créées sur le Nouveau Monde.
Original, dans tous les sens du terme. Je trouve qu'il a maîtrisé d'un point A, un point Z. Tout le film est maîtrisé dans tout ce qu'il veut dire. Il y a rarement de choses qui sont mises de côté. Tout est soigné, tout est détaillé.
Je crois qu'il a dû avoir du décor naturel aussi à certains endroits ou du studio, parce que ça fait moins fond vert que ne peut faire, par exemple, Ant-Man 3, Quantum Mania, là, qui sont et les CGI ils sont très 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 léchés. Un truc propre, quoi.
Puis après, moi j'ai trouvé assez savoureux, effectivement. Encore, on revient toujours aux imbrications des personnages. Effectivement, tu m'avais raconté Gamora qui se souvenait plus d'être de l'affection en fait pour et ça aussi c'est vachement bien, quoi, la séquence
pour
Star-Lord. J'ai pu savourer plus le travail des Zoé Saldana et faut penser aux acteurs derrière le maquillage, etc. Et c'est super bien joué. Enfin, revoir que c'est très finement joué, ça c'est bien pour on le dit jamais assez souvent. On dit Marvel, c'est un peu...
Non, il y a un vrai jeu d'acteur.
La dramaturgie, elle est des fois un peu poussée, c'est un peu excessif, c'est un peu surjoué, etc. Non, là, c'est subtil. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est savoureux dans l'humour, dans le drama.
Ce que disait Arnaud, c'est le duo qui marche entre Drax et Mantis.
Ah, super beau.
C'est hyper mouvant, bien joué.
C'est triste vers la fin. Et ils peuvent amener de la tristesse parfois.
Dans leur relation.
Ouais.
Ils
sont basés sur l'humour en permanence. Tu casses un truc dedans et tout de suite, tu fiales parce que c'est drôle avant. Et effectivement, comme tu le disais, c'est d'autant plus... Mais ça, c'est dur à maîtriser au cinéma. C'est très difficile à faire, ça. De passer d'un truc à l'autre dans la même seconde, dans la même minute. Souvent, tu te dis, ça fait un peu...
Et puis le Marshall qui joue dans Serenity, qui joue le chef des CRS de la nouvelle...
Ouais.
Enfin, le...
Ouais, non, bah... me lance pas là-dessus, parce que les costumes...
Ah, il a... ah, ouais.
La scène...
On aura Payette, là. C'est... Avec sa mère, qui est de sa sœur, enfin, je sais pas, mais c'est énorme. Cette séquence, ce binôme, il est fendant aussi.
Tout ça, ah, c'est j'en ai un, il est bête dans mon équipe.
Ouais.
C'est... Enfin... Ah mais franchement, il y a et les costumes des CRS, mais ils sont incroyables, quoi.
Ouais, ouais, complètement.
Bah, ouais, il y a un clin d'œil à...
C'est en ça que je disais, mais ils lui ont laissé faire ça.
Quoi. Oui.
Ouais, ouais, il y a un côté...
Les fringues qui flottent, là, par le hublot. Putain, mais tu t'es gouré, c'est pas la poubelle, c'est... Le... Enfin bon, tout est... C'est du sketch, hein. Comme tu dis, c'est des sketchs en un plan, là, ou deux plans, et ça, c'est savoureux aussi.
Voilà. On ne saurait que vous conseiller de le voir ou de le revoir. Bah, oui. C'est vraiment un film...
Il faut pas bouder son plaisir.
Ouais, faut pas bouder son plaisir quand on s'amuse vraiment comme ça au cinéma. Et vraiment, je pense, on est d'accord, le meilleur depuis duo Endgame Infinity War dans la série des Marvel.
Oui, on peut le dire. Et puis c'est un vrai bon film, vraiment.
Oui, au niveau du scénar.
Niveau film, je parle.
Niveau film, ouais.
Oui. Non, non, moi j'ai... Voilà.
Ok, bah on continue avec les super-héros, Cory.
Ouais, mais on reste dans le Marvel.
Animation, Sony.
Animation, Sony. Donc,
c'est tout neuf, c'est aujourd'hui.
Ouais, Spider-Man Into the Spider-Verse.
Deux. Enfin,
de...
c'est... Puisque l'autre, c'était quoi
C'était New Generation en français, mais sinon c'était Into the Spider-Verse.
Ah, ouais, c'était ça. C'était déjà Into the Spider-Verse.
Non, c'était...
Attends, je cherche.
Ça me dit bien ça, moi, pourtant.
Ouais, ça me dit ça Yann,
aussi. Oui, je pense aussi.
Mais Into the Spider-Verse, pour moi, c'était le premier, en fait.
Le premier, en animé, et là, c'était Across the Spider-Verse.
Ah,
là, c'est
Across. Into
c'est
et
à travers, du coup.
Ouais.
Subtil.
Subtil. Soto.
Attention. Donc, bah, pour ceux qui n'ont pas vu le précédent, du coup, on suit l'histoire.
Dommage.
Oui, dommage, parce que c'est, je trouve, l'une des meilleures adaptations de Spider-Man.
Tout à fait.
Et bah, justement, au lieu d'avoir un Peter Parker, on a un Miles Morales. Une toute nouvelle histoire, mais bon, qui est fidèle aux comics.
Mm-hmm.
Pour ceux qui ne voient pas, Julien est en train de s'étouffer d'éternuement.
Désolé.
Il n'y a pas de souci. Mais à tes souhaits, du coup.
Merci.
Et j'en étais. Et oui, du coup, on suit à Miles Morales, qui apprend à être un Spider-Man en compagnie d'autres Spider-Man, d'autres univers. On a
Spider-Gwen. Spider-Cochon, qui lui vient carrément directement...
C'est ça. D'un peu l'univers Looney Tunes.
Ouais, ouais. Puis voir même la référence. Je crois qu'en fait, Spider-Cochon n'existait pas avant le film Les Simpsons. Hein.
Non, du tout, du tout.
Ah ouais.
Non, non, il existait en comics bien avant.
Je me souvenais pas.
C'était... Et c'est ça qui a inspiré le Spider-Cochon.
Tu peux grimper au plafond.
Il faut...
Pour remettre à l'envers,
oui.
À l'endroit,
oui.
Par rembobiné.
Et donc, du coup, on suit un peu toute cette histoire où, vu qu'il a de nouveau Spider-Man dans son univers, il faut essayer de les ramener face à...
Oui, parce qu'en fait, dans le premier, il y a une faille dans le multivers qui est provoqué par le Kincaid, qui est le méchant de Daredevil, rappelons-le, hein, et du coup, qui va certainement aussi revenir quelque part. On va peut-être revoir du Daredevil arriver, enfin voilà, ça m'attire. Et du coup, le Kincaid crée une faille et du coup, il y a des Spider-Man qui sont importés dans l'univers de Miles Morales. Et il faut absolument reboucher la faille, mais en même temps faire partir les Spider-Man parce que si on rebouche la faille et qu'ils restent dans cet univers-là, ils vont mourir.
C'est ça.
Et il y a un love crush entre Miles Morales et Spider-Gwen.
Oui. Qui continue du coup dans le nouveau.
Bah oui, on pouvait pas l'arrêter
parce
comme
que,
ça.
Parce qu'à la fin du premier, tout le monde retourne dans son univers, très bien, tant mieux. Sauf que là, Miles Morales essaye de mener une vie d'adolescent normale, sauf qu'il a toujours son crush sur Spider-Gwen.
Et déjà, les relations longue distance, c'est pas facile. Là, les redditions à travers le multivers, ça doit vraiment pas être évident. Quoi.
Et il essaye de mener un peu toute cette vie, sa vie d'adolescent avec ses parents, devoir réussir, sauf qu'il y a un nouvel ennemi qui apparaît.
Qui n'est pas son oncle ce coup-ci.
Non, cette fois-ci, attends, j'ai oublié le nom déjà, c'est le trou. Non, le point noir, bref. En gros, c'est un homme à trou noir.
Okay.
Et qui crée des failles un peu partout. Oui, c'est un peu la galère. Sauf que ça perturbe le multivers, ce qui fait que tu as l'Interpol Spider-Man de multivers qui intervient.
Ok.
notamment avec un Spider-Man 2099, Spider-Gwen qui revient, puis bah, toute une nouvelle panoplie, et puis bah, tous les Spider-Man. Et bah, Miles Morales va essayer de s'en sortir, d'avoir son, gérer son affaire avec bah, Spider-Gwen. Sauf que bah, il, pour sauver son univers, il doit faire un sacrifice, Miles Morales. Et s'il veut sauver son univers... Tout,
hein. Attends, si tu dois spoiler, on va laisser 10 secondes aux gens pour partir du, du bah, micro. C'est... Éteignez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spoil attaque.
Spoil. C'est pas tant du spoil parce que c'est dans la bande-annonce. En gros, il doit faire un choix, Miles Morales. Sauver son univers. Mais s'il sauve son univers, tout l'univers du Spider-Verse est menacé. Donc... C'est un peu un choix cornélien qu'il doit
libérer
faire.
Libérer Mary Jane ou laisser tomber la planète
C'est un peu ça, mais du coup, dans le cas de Miles Morales, sans trop en dire, et bah justement, il y a tout ce conflit et puis bah, l'introduction de plein de nouveaux Spider-Man. Et pour ceux qui sont vraiment fans de bah, du, tout l'univers Spider-Man, que ce soit les films, jeux vidéo, dessins animés, comics et tout, bah, franchement, là, toutes les références y sont. Sans y être dans trop le clin d'œil, genre juste faire un caméo.
C'est pas juste un film choral ou un méta-film. Quoi.
C'est ça, c'est pas comme si on regarde maintenant le dernier Spider-Man qui est sorti, donc le No Way Home, où il y avait bah, le retour des deux anciens Spider-Man. Je l'ai regardé il y a pas longtemps, maintenant ça fait vraiment bizarre. Parce que bah, du coup, tout le film est un peu basé là-dessus.
C'est un peu ce que disait Yann, vous ne voyez pas l'intérêt de créer celui-là, sachant qu'on avait déjà fait des Spider-Man à travers le multivers en animé qui était bien mieux traité.
C'est
quoi.
Ça.
Après, c'est vraiment du fanservice, hein, le No Way Home.
No Way Home, c'est surtout du fanservice, et que là, bah, justement, ça n'en est pas tant. C'est vraiment des petits clins d'œil qui font plaisir et qui sont utiles à l'histoire. Pardon. Et bah, là, c'est vraiment bien, l'histoire elle est vraiment très bien menée. Les personnages, bah, on s'y attache facilement. On comprend un peu toute la morale du film, les problématiques. Et on est un peu bah, dans la même position que Miles Morales où bah, on comprend parce qu'on voudrait aussi sauver notre position, à dire. Mais bon, ça a toutes des conséquences. Tout ce qu'on fait, ça a des conséquences et le film le prouve.
You will pay the consequences.
C'est ça. Et du coup, bah, là, le film est plutôt bien fait, je trouve. Il a bien mené. Il a bien respecté mes attentes, je trouve. Pas autant que le 1, parce que le 1, c'était quand même une surprise pour moi. Et là, vraiment, il y a à nouveau de la surprise. On a beaucoup un peu tout ce qui est du cliffhanger. Okay. On nous laisse beaucoup sur des questions bah, qui vont être répondues.
Dans le troisième ?
Dans le troisième, oui, qui est annoncé depuis un bon moment. Et puis, du coup, là, il est bien confirmé qu'il y aura un troisième. Et sinon, non, c'était plutôt... moi, je l'ai vu bah, aujourd'hui. C'était plutôt une bonne expérience. Il y a de l'humour qui est bien maîtrisé. On voit que bah, Sony Pictures, vu que c'est Sony Pictures Animation, il a fait un travail de dingue.
L'animation est toujours
encore
aussi propre
mieux
que
même.
Mieux que le précédent.
Mieux, parce que franchement, là, il y a tout cet effet bah, de. Un peu des bugs multivers.
Du glitch,
ouais, c'est ça. Et bah, il y a pas mal de ça. Chaque personnage, chaque nouveau Spider-Man qui est introduit, a vraiment son identité visuelle.
Oui, c'est déjà ce que j'avais trouvé hyper réussi dans le précédent, c'était que chaque univers qui nous était présenté dans le multivers. Malgré le côté animation, dessin animé, était déjà très identifiable graphiquement. Quoi.
Bah là, il est encore plus poussé parce qu'on a l'introduction d'un Spider-Punk, okay. Un peu un Spider-Man, on va dire, des années 80-90 à Londres, où il est vraiment punk, où il y a beaucoup tout ce qui est stickers, un peu anarchiste, tout ça.
Okay.
On a un Spider-Man un peu... non, pas un peu, il est indien, donc il y a tout le style un peu Bollywood,
okay.
Un peu l'ambiance Mumbai, où c'est vraiment les grandes villes, où il y a beaucoup de couleurs. Et puis même après, en général, franchement, même pour des scènes, bah, on est habitué à un univers, on va dire, le basique, celui de Miles Morales, qui correspond un peu au nôtre.
C'est pas exactement le nôtre, quand même. Le nôtre, c'est plutôt celui de Peter Parker.
Ouais, et là, vraiment, il y a un effet plus sombre. Mais du coup, plus on avance dans le film, tout ce qui est les séquences émotions, quand c'est triste, vraiment, même tout le décor prend une autre couleur.
Ok.
Et il reste le même, et je trouve que ça a été plutôt bien amené. Et franchement, je trouve que bah, là, vu que c'est Sony qui fait les films, vu qu'ils ont les droits cinématographiques pour Spider-Man, là, ils l'ont plutôt bien fait.
Ils sont pas prêts de les lâcher
Ah bah, je pense pas, mais par contre, quand on voit là, qu'ils veulent faire leur univers avec tout ce qui était Morbius, Venom, là, d'ailleurs, Kraven, enfin bref, ça fait un peu peur.
Oui, et parce que les autres sont moins réussis. Hein.
Bah, on voit que quand c'est live action, Sony n'y arrive pas. Que là, quand
sauf les Spider-Man.
Les Spider-Man, oui, mais là, parce que là, depuis 2-3 ans, ils essayent de faire un peu un univers étendu à Spider-Man sans mettre Spider-Man. Et moi, je trouve que c'est pas une réussite, ça marche pas. Et là, franchement, niveau animation, c'est plutôt bien fait. Le doublage, en or. Même la VF, même quand là je suis sorti, j'ai appris que Spider-Man 2099, c'était Mathieu Kassovitz.
D'accord.
Et franchement, quand j'ai vu en vrai, bah, du coup, j'aime encore moins le personnage qu'il interprète. Parce que j'aime pas du tout. Mais bref, passons, c'est vraiment personnel.
Non, mais après, Mathieu Kassovitz, je propose qu'on fasse une pause musicale et qu'après on parle des problèmes du cinéma français.
Ouais. Mais sinon, après, en soi, c'était une bonne expérience. Y a beaucoup de. Bah, la séance où j'y étais, il y avait pas mal d'enfants.
Normal. Oui.
Et je pense qu'il vaut mieux voir le premier, parce que pour avoir les bonnes bases, vu qu'il y a beaucoup de références. Mais en soi, le 2, il peut se regarder parce qu'il y a des petits résumés, des petits flashbacks.
Ok.
Mais il vaut mieux avoir vu le 1. Mais
sinon, tu me disais en antenne que Yann était allé le voir et qu'il vous disait que pareil, il y avait beaucoup d'enfants, mais que les enfants avaient applaudi à la fin.
Il m'a demandé si on l'avait vu. Je lui ai dit que non, bah, alors, ça vient de sortir. Il sait bien qu'on ne peut pas, nous, en journée. On ne peut pas le voir le jour où je dis où il sort.
On n'est pas instituteur, donc on ne peut pas travailler.
Il me demandait juste si on allait le voir, en gros. Alors, parce que lui, il l'a vu en fait, cet après-midi. Et effectivement, il m'a dit il craignait le pire parce qu'il y avait plutôt la jeune génération dans la salle, a compris, il y avait un gamin avec son ballon de basket, il s'est dit, oh punaise, ça va jouer au basketball dans la salle, il s'est dit, on va pas bien suivre le film, il dit, il y a un silence religieux qui s'est installé, et en fait, les gamins ont applaudi à la fin du film, en tout cas, donc voilà, et le travail est apparemment sur l'écran, et c'est fort apprécié, mais du coup, Yann a bien aimé aussi, c'est ce qui m'a semblé me dire, donc moi après, je sais pas, franchement, il nous l'avait montré chez lui, je crois qu'on l'avait regardé en...
Le premier
Ouais, et je m'étais grave endormi.
Ouais, je l'avais montré.
C'est trop de références de partout, je comprends pas. Ouais. Moi, je suis resté sur Peter Parker. Moi, je suis resté sur l'araignée, vous voyez. Et éventuellement, Sam Raimi. Donc, voilà, je rame un peu.
Ouais, ouais.
Au-delà.
Après, il faut se dire, ok, c'est un nouvel univers.
Je comprends bien, d'ailleurs, là-dessus, mais c'est foisonnant, c'est clair. Ah, on peut faire énormément de choses sur le. Mais moi, je suis plutôt back to basics. Moi,
c'est ton côté réel.
C'est quand j'étais petit. Oui, quand j'avais 7 ans, ce générique. C'est la Madeleine, quoi. Voilà, un peu ce mono-merdique, là. Tu vois, pour moi, l'araignée, c'est ça. C'est le Spider-Man. C'est ça qui. Je reviens à ce fil qui me ramène à mon enfance.
Fil d'araignée.
Ouais, fil d'araignée. Bon. Voilà, c'est juste.
Bah, c'est vraiment un film, là, vraiment pour ceux qui aiment bien un peu l'univers, on va dire, animé de cette année. Enfin, beaucoup maintenant depuis Arcane, comme son
Arcane,
Netflix.
Oui.
Ça, c'est plutôt pas mal. Et après, bah, vraiment, pour les gens un peu lambda, on va dire, qui aiment bien un peu l'univers super-héros. Et franchement, moi qui suis assez fan de Spider-Man, mais pas non plus poussé, je trouve qu'il y a beaucoup de références que je connais et d'autres que je ne connaissais pas. Mais en soi, pour ceux qui sont vraiment fans, je pense qu'ils peuvent y trouver leur bonheur.
Bon, sans doute, je pense que ça va faire un beau, beau score.
Oui, ça devrait rester quelques temps à l'affiche.
Oui. Je pense aussi.
On écoute Koutou avec le titre Dantada sur Radio Campus et puis on revient après pour dire tout le bien qu'on pense du cinéma français. A tout de suite. C'est pas le bon écran. Hop, voilà.
Yeah.
C'était Dantada de Koutou sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Koutou que... Ouais, si les jeux lâchent, vous retrouverez à Hop 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 les 16 et 17 septembre. Ouais, la prog est annoncée demain, mais là, vous avez une toute petite exclue. J'en ai plein d'autres à vous lâcher si vous voulez. Voilà. Du coup, on revient pour parler...
On peut parler un peu de Cannes si on veut, juste comme ça.
Ouais, c'était... parlons de Cannes. Ouais, parlons
c'était
de Cannes.
Le festival, c'est le festival de la saison, et mois de mai, c'est Cannes. Ouais. C'est... Dans Cannes, il y a quand même une palme d'or, et c'est une palme d'or française, et c'est une femme qui gagne le prix.
Oui, alors c'est la troisième fois seulement qu'une femme gagne la palme d'or, après, et Jane c'est Campion. La onzième palme d'or française.
Dixième ou onzième? Ils ont dit dixième, c'est la onzième en fait. Moi, ça me paraît beaucoup, onze. Je ne me souvenais pas qu'on en avait eu autant depuis les années 60, 50.
Ça fait que 10%. Hein.
Oui. C'est vrai, mais je pensais qu'on en avait, dans mon souvenir, je pensais qu'on avait que 4 ou 5 à tout casser, tu vois, des palmes, bon, bref. Et en tout cas, oui, après...
Des palmes, déjà, il en faut deux pour avancer de manière
exactement. Ouais. Enfin, oui, effectivement, c'était Jane Campion et puis Julia Ducournau, tout récemment, puisque c'était il y a 2 ans.
Qui était française aussi.
Oui, mais c'est une néo-zélandaise.
Pour, Jane Campion, pour Jane Campion. Ouais.
Et puis deux françaises, du coup, l'une après l'autre, parce qu'entre-temps, il y a eu Ruben Östlund qui était le président cette année, et qui a eu sa palme l'année dernière, qui fait des mauvais films, on est d'accord, et qui est donc un mauvais président, peut-être.
Non, après, alors, c'est... Enfin, moi je trouve qu'il fait des films à chier, qui puent le capitalisme à plein nez.
J'ai même pas vu, mais on en avait parlé, je sais que Céline en avait parlé de nos filters, j'ai même pas voulu le voir.
The Square, en fait, moi on m'avait dit, ouais, The Square, ça devrait te plaire, ça critique l'art, ça critique rien du tout, en fait.
On est d'accord.
Ça critique l'art de la même manière que les gens qui ont un tableau de Rothko, il dit oh, ça va, c'est du jaune et du rouge, j'aurais pu le faire. Merci la critique, quoi. Et les émotions dans tout ça, la vibration, t'avais qu'à le faire en fait, et t'avais qu'à le vendre.
Oui,
j'en ai marre.
Non, mais je suis absolument d'accord. En tout cas,
c'est un sale type.
Après, bref, ça peut pas donner, je sais pas si ça donnait un bon palmarès du coup.
Si, je sais pas, après c'est pas la même chose, il est pas tout seul à juger.
Il est pas tout seul. Et d'ailleurs, le jury était, moi je trouvais plutôt pas mal, enfin là dans sa composition, je trouvais des gens que j'aime bien dedans. Alors après, sur les films, on peut.
Et c'est vrai que du coup, sur les trois palmes d'or féminines, il y en a quand même deux françaises.
Bah oui,
en ça fait 66% de palmes d'or féminines.
Ouais. Et avec en général, un cinéma intéressant en plus. Moi, je sais que à la fois Campion à l'époque avait proposé la leçon de piano.
C'est beau, la leçon de piano, c'est quand même.
Ouais,
un beau film.
Ça reste encore en tête. Moi, je trouve que c'est un film dont on se souvient. Quand on voit quelques plans, on se souvient de la musique, on se souvient de
Michael Nyman. Le film derrière, quelque chose qui. Oui, Michael Nyman. Ouais.
C'est bien ça.
Qui pose, quoi. Enfin, tu vois, ça reste encore aujourd'hui. En vrai, si on devait faire la palme d'or des palmes d'or, je pense qu'il pourrait arriver quelque part dans le top 5, quoi. Sans problème.
Après, pour Julia Ducournau, on l'avait vu ensemble.
Titan, moi,
on était un peu partagés. Je me souviens parce que Céline et toi, vous étiez à fond. Moi, j'attendais beaucoup parce que j'avais adoré Grave. Et j'aime beaucoup Julia Ducournau. Elle m'a un peu déçu fatalement sur Titan. On avait parlé, on a pas mal débriefé après Palme. Mais moi, je suis une actrice que je suivrai de toute façon toujours.
Une réalisatrice,
Réalisatrice que je trouve qu'elle a vraiment du potentiel. Et voilà. Après, Justine Triet, je connaissais pas trop.
Parce que c'était notre troisième.
J'ai vu qu'elle avait tourné deux films précédents, dont un qui s'appelle Victoria, qui avait apparemment beaucoup, beaucoup bien marché, plutôt, et moins le précédent qui s'appelle Isil, je crois. Mais alors qu'elle a 44 ans, c'est pas une jeunette, entre guillemets, dans le cinéma. C'est pas une débutante, mais elle émerge maintenant. Et alors, oui, elle emballe carrément le prix en très peu de films, finalement. Elle a 4 ou 5 films à son actif. Alors, Anatomie d'une chute, j'attendrai de le voir. Il sort que mi-août, on ne pourra pas vraiment, un peu comme pour Ducournau, on en avait parlé qu'à la rentrée de septembre, parce que les films de Cannes, parfois, ils ne sortent pas chronologiquement au festival, donc on attendra.
Des fois, ils sortent même avec un an. Hein.
Oui, des fois, c'est même fin d'année. Des fois, c'est rare, mais souvent, c'est septembre-octobre.
Il faut que ça sorte en 2023, je crois, pour être à Cannes. Des fois, ça sort en novembre-décembre, ça arrive.
Donc oui, c'est tardif des fois. Il y a des films qui sortent effectivement à toute fin de l'année. Donc on ne se souvient même plus que c'était à Cannes, d'ailleurs, pour le coup. Donc on en parlera en rentrée de septembre de Anatomie d'une chute. Mais ça a l'air déjà assez intriguant. Enfin, je ne sais pas. J'attends de voir pour en faire vraiment une analyse. Après, les autres films, je sais qu'il y a Jonathan Glazer, que j'aime beaucoup moi, comme réalisateur, qui gagne le Grand Prix avec un truc qui s'appelle... je vais reprendre la Bible. Enfin, en gros, c'est le réalisateur de Under the Skin, ça vous dit quelque chose?
Ouais.
Et puis aussi avant, de Birth. Avec Nicole Kidman d'ailleurs. C'est un clipman, enfin un réalisateur de clips, surtout connu pour ça dans les années 90. Il a fait pas mal de clips pour beaucoup de stars connues de la chanson. Et c'est un Britannique, je crois. Et en fait, là, il a réalisé, d'après un roman, un sujet qui m'intéresse toujours, c'est-à-dire l'Holocauste. Désolé, mais c'est un peu la Shoah, quoi. Et du coup, The Zone of Interest, en anglais, la zone d'intérêt, et qui s'intéresse.
Qui est sorti avant Cannes déjà, je crois.
Je sais pas, en tout cas, il n'est pas sorti ici, on n'a pas pu le voir, sinon j'y serais allé. En fait, moi, j'en ai entendu parler que pendant le festival.
J'en avais entendu parler avant.
C'est, ouais, si je ne me trompe pas, c'est bien l'histoire sur le gardien de...
Oui, de Rudolf Höss, en fait, dans sa maison, à quelques encablures du camp. On ne verra jamais le camp, on ne verra jamais. On le prévoit, on le pressent seulement.
Je ne sais plus pourquoi j'en ai déjà entendu parler. Oui, peut-être des gens qui l'ont chroniqué, qui l'avaient vu en avant, en première, enfin, tu vois.
Dans le concept, ça rappelle un peu La mort et mon métier de Robert Merle. Ce n'est pas tout à fait nouveau dans le concept, c'est-à-dire on décrit l'horreur, l'indicible par la petite lorgnette sans même
du
la
bourreau,
montrer.
Quoi.
Oui, l'œil du bourreau ou l'œil de l'administrateur, enfin le côté rond de cuir qui fait son taf, quoi, parce qu'on lui a dit de faire ça bêtement, en fait. Donc ça, c'est le film de Glaser, c'est le deuxième prix, hein, en fait, un grand prix, c'est le deuxième juste après La Palme. Et puis son premier prix du jury, c'est Les Feuilles Mortes. Alors ça, je connais un petit peu moins, mais je crois que c'est Aki Kaurismäki, c'est bien ce qui me semblait.
Oui, c'est ça, c'est notre ami finlandais.
Ouais. Alors là, paraît-il que les gens ont autant ri qu'ont été émus, apparemment. Enfin, c'est pas dans son habitude,
quoi.
Souvent c'est déprimant.
Quoi malgré tout.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Leningrad Cowboys, tu trouves ça déprimant?
Non.
Les Leningrad Cowboys, Ghost to Lee.
Non, c'est fun, ouais, je sais, je suis d'accord.
Aki Kaurismäki.
Non, mais je confondais avec un autre, en fait, mais bêtement.
Le Havre, c'est déprimant de Kaurismäki.
Oui. Ah,
le Havre,
oui, c'est ça, oui. Il a quand même fait des films qui étaient un peu pesants, parfois. Pas
oui,
tout le temps.
Puis en fait, il a une filmographie qui est ou dans le rire, ou dans,
oui.
dans le poids.
Mais donc voilà, je revois Tranan Oon aussi qui a eu un prix de la mise en scène. C'était L'odeur de la papaye verte, son premier prix aussi.
Kore-eda n'a pas eu un prix pour son prix d'interprétation masculine.
Je sais pas, il y a le scénario de Monster, c'est Kore-eda. Son scénariste qui a eu un prix, Yuji Sakamoto. La caméra d'or, c'est L'arbre au papillon d'or. Je regarde juste en même temps, je suis désolé, j'ai mes antisèches parce que franchement, le
c'est pas évident, vas-y.
27 pour le court-métrage, pour le prix du court-métrage. Et apparemment, pour un certain regard, ça s'appelle How to Have Sex, et j'en ai entendu parler. C'est un film d'une jeune réalisatrice, et apparemment, ça percute pas mal, ça a 23 ans.
Okay.
Et son film parle bien évidemment de violence sexuelle lorsqu'on flirte, lorsqu'on fait les soirées. Et apparemment, c'est bien costaud.
Le viol, tout à fait.
Voilà. Et elle est à 29, son personnage a 23 dans le film. Mais donc voilà, grand prix d'un certain regard à suivre aussi. Ça
me tente à aller voir.
Moi aussi, c'est des films un petit peu qui m'ont. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec le palmarès, j'ai des trucs qui m'intéressent dedans, clairement.
Et Maïwenn n'a rien eu, et tant mieux.
C'était juste un film en présentation. Alors, on en parlait en off tout à l'heure, effectivement. Non, mais pas off, on était en on. On peut en parler un peu si tu veux.
Moi, je préférais qu'on parle, et qu'on voit tous
la fabrique du mensonge.
L'affaire Amber Heard. comment, en fait, les milieux masculins et Internet a réussi à prendre la défense et à peser sur le procès de Johnny Depp et Amber Heard, procès en diffamation qu'il a gagné. Mais du coup, on occulte complètement le procès au pénal qu'il a perdu en vrai. Voilà. Et donc,
j'ai pas vu l'émission, du coup.
Ouais, non, mais moi, je vous invite à regarder ce. Je peux pas aller ouvrir. c'est compliqué. Merci, Arnaud. Du coup, pour nos auditeurs qui n'entendent pas, ça vient de sonner parce que je pense qu'il y a Meadows. Comment ça s'appelle? Putain, à chaque fois, j'ai envie de dire Flushing Meadows, mais c'est pas Flushing.
Ah, pas mal, parce que c'est le tennis, c'est parce qu'il y a Roland Garros qui
est là. Ouais, en plus. Mais c'est. Bon, ils l'annonceront, mais c'est l'émission d'après. Qui passe des disques à 20h, à 21h. voilà. Et du coup, oui, je vous invite à regarder La Fabrique du Mensonge sur France Télévisions qui parle de toute cette affaire Amber Heard qui parle du courant masculin. Si vous avez aussi envie de vous intéresser au courant masculin, moi je vous conseille de regarder le French Kiss spécial qu'on a fait avec Pilvi qui est disponible toujours sur ma chaîne YouTube Badois, B-A-D-W-A-H. Où justement on décortiquait un peu les courants masculinistes et qu'est-ce que ça fait, et qu'en fait les masculins tuent, le féminisme ne tue pas, c'est ça la principale différence. Voilà, et donc du coup, moi je comprends pas qu'on arrive à mettre une standing ovation à Johnny Depp à la fin d'un film de présentation.
C'est Cannes.
Cannes
en tant que fonctionnaire, que machine. C'est...
Mais pourtant, Cannes, historiquement, c'est quand même Jean Zé, c'est la CGT, c'est censé lutter pour un monde meilleur.
On en est loin aujourd'hui. C'est loin tout ça.
Et là, en fait, on acclame un oppresseur, quoi. Enfin, quelque chose
c'est
qui
même
va pas
que
du
ça.
Tout.
Mais après, Cannes, c'est encore une fois, c'est même plus. C'est plus trop rationnel par rapport aux idées d'origine.
Non, c'est un
business.
Mais a priori, il y a toujours normalement quelqu'un de la CGT dans le jury. C'est fort possible.
C'est un festival le meilleur du monde, comme disent beaucoup de ses invités. Ceux qui viennent participer à chaque fois, ils disent qu'ils sont très contents d'être à Cannes. Même comment dire, l'ancien producteur américain amené par Tarantino, parce qu'il y avait il y avait quelques guests assez originaux aussi quand même sur la scène. Il y avait Tarantino comme ancien prix. Enfin, moi, je sais qu'en 94, j'ai hurlé dans ma chambre d'ado quand il a eu le prix. Pour moi, j'avais jamais vu. Je pensais pas qu'un film comme ça pourrait avoir une palme.
Oh, bah,
c'était rare avant. T'avais peut-être Taxi Driver.
T'as eu des shortcuts qui étaient des trucs qui sont assez anecdotiques, mais qui, quand tu regardes la sélection de l'époque, enfin, Shortcuts, 84.
Bah, de quoi
pour Shortcuts.
Ah, Shortcuts, c'est de le Altman.
Ouais.
C'est un petit peu avant, 91 peut-être.
Ouais, 91, tu vois, quand tu vois le Shortcuts, quand tu regardes la sélection qu'il y avait en 91, pourquoi Shortcuts, quoi?
Oui, clairement.
Pourquoi Shortcuts? Enfin, il y a vraiment. Enfin,
oui, je sais.
Et c'est un film qui est complètement anecdotique, de genre mauvais.
Ah bon, on récompense aussi nul qu'aussi génial, enfin, ou pas du tout. Enfin, Pulp Fiction, c'était peut-être une horreur pour beaucoup. Hein. À l'époque, d'ailleurs, beaucoup de gens
ont critiqué, ont sifflé. Ouais, mais ça marche. Il y a un virage qui est pris avec Pulp Fiction, tu vois. Il y a un truc, quoi.
Oui, je pense un peu aussi. Mais c'est pour ça que moi, j'avais beaucoup été emballé en 94 quand La Palme avait, avait donné ce prix-là. Mais donc, tout ça pour en revenir, qu'il amène Roger Corman sur scène. Et en fait, qui est Roger Corman? C'est un vieux monsieur de 99 ans, un truc comme ça, avec une canne. Ça m'a fait drôle. Et il a toujours le même sourire un peu de requin, parce que c'est quand même un gros producteur américain, il faut situer. C'est l'homme qui a mis pied à l'étrier de beaucoup de réalisateurs ultra confirmés par la suite. Mais à la base, c'est un producteur à 4 sous, c'est-à-dire qui donnait quelques dollars, mais fallait le retour sur investissement. Mais beaucoup, vous Corman, au panthéon, des producteurs américains, parce qu'il a donné la chance à beaucoup de réalisateurs, y compris De Palma, y compris Coppola, je crois aussi. Enfin, voilà, et il avait ce rôle comme ça de dénicheur de stars, de talent.
Ouais, il faisait confiance, il prenait des risques, quoi.
Oui, voilà, à la base, mais il finançait des trucs à pas cher. Voilà,
ouais, il permettait à des idées incroyables d'aller se faire, parce que aussi, de toute façon, ça n'avait pas besoin de beaucoup d'argent, et la prise de risque était minimum, mais il prenait le risque.
Exactement. Donc voilà, c'était plutôt sympa, avant qu'il calanche, qu'on puisse le forcer. Il dit, enfin, je suis à Cannes, c'était sympa, parce qu'il a dû y aller plusieurs fois en tant que producteur au festival professionnel, en fait. Je pense qu'il devait s'y inviter tous les ans, et il devait y aller. Mais tu n'es jamais sous les lumières, en fait, de la scène. Donc ça, pour le coup, c'était plutôt sympa aussi, en fait. Bon, après, moi, on peut parler d'autre chose maintenant. Si on...
moi, j'ai vu, là, parce qu'au cinéma, j'ai vu que Pathé, c'est plutôt bien ce qu'ils font. Enfin, pas mal de cinéma pour les 100 ans de la Warner Bros.
Oui.
Ils proposent des séances, des classiques du cinéma. J'ai vu, du coup, il y avait pour à peu près chaque décennie.
Souvent commenté, avec un petit préambule, là, du gars.
Oui, un préambule, il y a un spécial. J'ai oublié son nom. Je crois que c'était un Jérémy.
Non, je sais plus, mais il est plutôt marrant, le gars, en fait. Et souvent, c'est assez, c'est plein d'anecdotes. Mm-hmm. C'est intéressant.
Surtout que là, du coup, comme film, j'ai vu, il y a Casablanca.
Ouais, des classiques.
2001, L'Odyssée de l'Espace, Les Affranchis, Blade Runner et puis Joker de 2019.
Ah oui,
avec Joaquin Phoenix. C'est un peu pour chaque décennie. J'ai vu qu'il y avait pour les enfants, ils rediffusaient du coup Harry Potter à l'école des sorciers.
Est-il avec une gourde Hogwarts? le premier, du coup.
Que le premier.
Ah ouais. Je me disais encore, je revoyais l'actrice d'Hermione. Ils ont tous pris 20 ans de plus. En fait, c'est 1999, je crois, le premier Harry Potter. C'est dingue.
Enfin, 2000, quand on y reprend,
2000 peut-être, hein, c'est ça.
2000-2001,
je crois.
Ouais, mais ils ont 20 ans.
Ils ont 20 ans.
Ils ont bientôt 40, quoi.
Oui, mais ils ont bientôt 40. Ouais. C'est ça qui est dingue. Enfin, bon, ouais.
J'ai vu, ils passent en ce moment pour l'été, ils veulent diffuser plein de classiques de ce que j'ai vu, parce qu'ils rediffusent aussi Le Samouraï avec
Delon. Melville.
Voilà, il y a plein de classiques cet été qui vont être diffusés, donc pour ceux qui n'ont pas vu.
Si vous n'aimez pas Delon,
n'y allez pas.
Non, justement. Justement, ça va vous changer.
Oui, c'est vrai.
Parce que c'est un bon film déjà.
Parce que il y a quelques bons films avec Delon quand même.
Oui, bien sûr, mais le personnage peut être assez rebutant.
Ouais, moi je l'aime bien dans La Piscine. Mais c'est parce que j'aime bien le film La Piscine.
La plage aussi.
De quoi?
Non, rien, du coup.
Non.
Jeu de mots débile.
Oui.
Vous m'excuserez.
Après, La Piscine est un film particulier. Ouais. Hein. On est vraiment sur du univers machiste. Enfin,
c'est
y a un truc,
désagréable. Comme
je trouve qu'il joue bien dans La Piscine.
Il a été remaké, mal remaké, je crois. C'était pas le talentueux Monsieur Ripley?
Non, il a été plutôt bien remaké par le seul film que j'aime de ce réalisateur, François Ozon, avec Swimming Pool.
Mais je crois qu'il y a un vrai remake américain.
Oui, le
Swimming Pool, c'est très bien, c'est même presque supérieur. Non, ça se vaut. Ça vaut La Piscine.
Après, c'est pour moi le meilleur Ozon.
Sous le sable. C'est bien Sous le sable.
Non.
Ah oui. Avec Rampling.
Ah non, mais Ozon, je peux pas.
Vraiment. Ah, mais j'aime pas non plus, hein. Mais celui-là, je l'aime bien. Enfin, non, j'aime pas tout.
Voilà, tu vois, finalement, en discutant, non, en fait, il y a que Swimming Pool qui est intéressant chez Ozon.
Non, Sous le sable.
Ou alors après, il faut qu'il fasse du docu, quoi.
Oui, peut-être, je sais pas.
En fait, c'est pas grave, il est pas cinéaste, il est documentariste.
Mmh. C'est bon, le documentaire. Moi, j'aime bien.
Il y a des choses très bien dans le documentaire. Il y a des choses très, très bien.
Bien supérieur.
Oui, et d'ailleurs, on devrait des fois en parler un peu plus de documentaire, mais c'est pas évident. Et d'ailleurs, le documentaire devrait de temps en temps être diffusé sur des grandes salles.
Bah, ça serait bien, oui, c'est rare.
Ça pourrait être intéressant parce qu'il y a des fois des documentaires qui méritent le...
Absolument.
Qui méritent le grand écran.
Ouais, clairement.
Et puis ça serait bien que ça soit autre chose que du documentaire animalier sur grand écran.
Ah oui.
Parce qu'on a eu droit à des microcosmos et des choses comme ça, mais il y a autre chose que ça dans le documentaire. Il y a des.
Alors là, il y en avait un en compète justement sur les ouvriers très malmenés, enfin horriblement traités en Chine, c'est ça ou en. Oh non, c'est. Ouais, c'est ça, qui s'appelle. Bref, il était aussi en lice pour avoir.
D'ailleurs, et c'est d'ailleurs très très rare d'avoir un documentaire dans la sélection officielle à Cannes.
C'est pas souvent,
Il faut le signaler.
Et apparemment, il est effroyablement impitoyable.
C'est
ça a l'air de dire, Bref, et ça sortira.
Bah, peut-être qu'on va s'arrêter là, nous, si on n'a plus rien à dire.
Ça aurait été les séries, moi je t'ai dit, tu parlais un peu. Ah oui, j'ai vu les trois premiers épisodes d'une petite série qui s'appelle Platonique.
Okay.
C'est du Judd Apatow, c'est pas lui, mais c'est un pote à lui qui avait réalisé les Nos pires voisins avec, vous savez, Rose Byrne et puis Seth Rogen. On retrouve le même binôme. Donc en fait, les deux acteurs coproducteurs. Donc ils se font plaisir avec le réalisateur justement des pires voisins et aussi de Sans Sarah Rien ne va, un peu plus ancien. Mm-hmm. Donc c'est l'écriture à la Apatow classique, c'est-à-dire voilà, les tourments sentimentaux, la dépression un peu à la. À la LA, en fait, toujours avec des bons mots, des bonnes blagues, etc. Des personnages qui sont typiques de cette littérature-là, de ce style scénaristique. C'est 2 30 minutes à chaque fois, ça se laisse bien voir. Il y a 10 épisodes, j'en ai vu que 3.
Répète le titre.
Platonique, Amour platonique. En gros, c'est deux anciens, Rose Byrne et Seth Rogen ont leur vie de couple rangée, l'un divorce quand même, et l'autre, elle a une vie ronronnante, on va dire, Rose Byrne, des enfants et un mari ronronnant. Se passe bien. Et puis, en fait, l'autre, le personnage de Seth Rogen, lui met par erreur un peu un texto pour informer qu'il vient de divorcer, etc. Donc, elle va le revoir juste pour discuter de ça. Mais d'une simple discussion un peu froide, il se recrée un lien parce qu'ils étaient très amis, presque intimes, en fait, avant qu'ils rencontrent l'un et l'autre leur couple, qu'ils construisent leur couple. Et donc, du coup, là, c'est. Voilà, il y a probablement un petit deal qui se crée, mais en même temps, ils ne veulent pas tomber dans ce piège-là, finalement. Donc, c'est platonique. Et pour ce que j'ai vu les 3 premiers épisodes, c'est savoureux parce que c'est sans vraiment d'engagement particulier. C'est simplement bien écrit à chaque fois. Il y a toujours l'humour. Ça parle beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, mais sans être trop lourd. Ça prend des petites choses. Puis ça prend des petites choses typiquement, je pense, l'univers de Los Angeles. Moi, je ne connais pas assez la ville, la grande ville, pour cerner les blagues qui s'y font. Mais ils parlent de restaurants, ils parlent de ceci, ils parlent de cela. Et je pense qu'il y a plein de petits clins d'œil. Donc, c'est un peu pour initier, on va dire.
Ouais, ou alors après, il faut avoir Wikipédia ouvert.
Ouais,
et prendre le temps d'aller chercher la
ref. Parce que ça fait de la ref, voilà. Mais sinon, si on s'en reste à l'histoire, c'est plutôt pas mal. Puis disons, les acteurs sont sympas. Seth Rogen, pas qu'il a vieilli, mais c'est qu'il a un look improbable. Je pense que c'est le personnage qui est écrit comme ça. Donc, il est drôle à voir. Vraiment, il en est haut en couleur. Et puis Rose Byrne, elle est justement un peu coincée, etc. Il ajoute très bien ça. Donc voilà, c'est plutôt savoureux, on va dire.
Très bien.
C'est sur Apple TV.
Ok. Bon. Platonique. Bah, je sais pas, moi, j'ai rien d'autre.
Moi non plus.
Okay. Et ben voilà.
Séance d'été, on va finir.
D'été, ouais. Arnaud.
Eh ben oui.
T'as rien d'autre
non plus. J'ai rien d'autre non
plus. Et ben voilà. Et ben on va laisser la place à Chip Meadows. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Et non pas Flushing Meadows. Ça ne marchera jamais dans ma tête. Je suis désolé, Nicolas et ton ami Manu. Je n'arrive pas à me souvenir du premier coup de Chip Meadows.
On va souhaiter un bon vent à Cory quand même.
Ouais.
Dernière émission, oui. C'était cool. Ouais. Merci de ta participation. C'était vraiment
sympa. Au Wiedersehen.
Voilà. Ah oui.
Et ça fait plaisir. Moi, j'ai passé une bonne expérience. Ouais, c'était très. Avec vous.
Nous, c'était cool d'avoir de t'avoir toute l'année, d'avoir du sang neuf dans notre émission. Mmh. C'était vraiment chouette. Si t'as des gens qui ont envie de prendre le flambeau, n'hésite pas à nous les envoyer.
Ça marche. Puis je serai toujours actif sur le chat.
Puis on passe aussi le bonjour à Fanny, qui a quand même été là aussi pendant la majeure partie de l'année, qui était vraiment aussi un vent de.
Des analyses aussi très, très fines. Enfin, vraiment, ils ont fait le taf, mais comme il faut.
Grave.
C'est analyse sérieuse, quoi.
Venez nous rejoindre. On a besoin de vous.
Ouais,
on se quitte en écoutant Burn Out Boris feat. Aira Kili Pi Lassai de DJ Vadim sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Ciao, ciao, ciao.
Au revoir.
Ciao. I'm not afraid to die.
run up. Yeah, I just them more them I run up. Well, from sundown till sun up. Babylon I look I come up. More corruption, more greed. Yeah, Babylon them still sowing the seeds. Well, promise you anything you need. Then have you begging on your knees. Well, politician a ticks and fleas. Get the youths them a ball out to the streets. Well, them say no more please. Babylon me said they get the youth will free. Well, but don't Paris me come for burn out Paris.
Street. I know the government boy them can't found him feet. All gun pan road they sounding sweet. You know what, see the killer man a roll with the army when me dey pan them street. You know lucky see the killer ain't rolling deep. Many night man them a roll with the gun in a jeep. Man them a gun roll him. So the killer man go circle the corner and tell all the ghetto youth them to go pull down the guns and knives and be armor. Nobody enough for them pan the corner. Enough man them a kill them one soldier. But the young or the older, them never really kill them on the one pan them shoulder. And them a tell them friend about them bad man folder. Well let's tower the community center. Carbon and them arms to run whenever them here say they go. Gunshot them a enter from last year in this.